Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin sur Chrétien d'Orient, nous recevons Anaïde Termination. Bonjour Anaïde.
Bonjour.
Historienne que nous ne présentons plus, habituée de notre rendez-vous dominical et surtout passionnée par l'histoire de l'Arménie et des Arméniens. Nous connaissons votre enthousiasme pour parler des autres, de leurs livres, avec justice et rigueur. Mais nous en savons un peu moins sur votre histoire personnelle. Si je me permets cette incartade, c'est que vous en parlez vous-même dans l'introduction de votre ouvrage, un ouvrage qui vient juste de sortir et qui est disponible en librairie, « L'échiquier arménien entre guerre et révolution, 1878-1920 » et qui est publié aux éditions Cartala. Alors je vous cite « Un itinéraire qui a commencé à l'école communale de la rue des Bois, dans le 19e arrondissement de Paris. » Près de la place des Fêtes, située au cœur d'un quartier populaire s'étendant de Belleville au Pré-Saint-Gervais. Un quartier populaire et vivant, investi par des immigrés grecs, juifs, arméniens, italiens, espagnols. Cette place, dans mes souvenirs, méritait bien son nom. Je dois à mes institutrices de m'avoir inculqué sans complexe, dans les années 1930, l'amour de l'histoire de la France et de la République. Et la certitude que la liberté est le bien suprême auquel les hommes aspirent. Alors pour ceux qui connaissent vos ouvrages, c'est tout de même assez rare que vous parliez de vous-même.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, là je me suis laissé aller et en même temps j'ai essayé d'expliquer à la fois l'immense gratitude que j'ai vis-à-vis de l'école communale française, de l'école républicaine. Quand j'avais 20-25 ans, je disais, oh, moi j'ai tout appris à l'école communale, et c'est en partie vrai, parce que, en tous les cas, les principes sur lesquels plus tard je bâtirai ma vie, disons, je les ai reçus là, en même temps que chez moi, c'est-à-dire dans une famille de réfugiés arméniens, venus pour ma mère des fins fonds de l'Asie mineure, une ville que vous connaissez peut-être, Mouche, qui est le coin le plus arriéré, je crois, de l'Anatolie encore aujourd'hui, qu'il l'était déjà à cette époque-là, du point de vue économique, du point de vue sécuritaire, etc. Et mon père, venu de Constantinopolis, comme disaient les Arméniens, on tenait... Je dirais pas un tout autre langage, mais c'était une tout autre tradition. Et si moi j'ai été élevé dans la conscience de ce qu'on n'appelait pas encore le génocide des Arméniens, on disait le grand massacre, on utilisait on ne disait pas le mot catastrophe, qui est un terme qui a été introduit relativement récemment dans l'histoire du génocide des Arméniens. Mais on racontait chez moi, sans aucune espèce de retenue, la suite des événements qui s'étaient produits, tels qu'ils les connaissaient eux, mais sur un autre ton, qui n'était pas le ton de la lamentation simplement, qui était le ton de la revendication. Car mes parents étaient engagés... De longue date, la famille était engagée dans un parti qui s'appelait la Fédération Révolutionnaire Arménienne, qui avait été un de ces partis apparus après le congrès de Berlin de 1878 et qui exigeait pour les Arméniens de l'Anatolie, de l'Empire ottoman, non pas l'indépendance, mais l'application des principes d'un état de droit, la sécurité, le respect religieux, le respect des familles arméniennes et l'équivalent de quelque chose qui pourrait être une auto-administration dans le cadre de l'Empire ottoman. Et cet esprit de revendication, c'est-à-dire exiger la liberté, exiger l'égalité, exiger la sécurité, ça c'était compatible avec l'histoire de France telle qu'elle était racontée dans le Petit Lavis. Je ne sais plus du tout si le Petit Lavis est encore enseigné dans les écoles communales françaises, mais je vois bien l'espèce de rupture qu'il y a à l'heure actuelle entre l'école et la société en France, et qui n'existait pas à mon époque. Et c'est parce que, dans cette école-là, française, j'ai appris ce que c'était que le principe de citoyenneté, le principe de nationalité. J'ai bien vu que ça ne correspondait pas du tout à ce qu'on me racontait chez moi. En Europe orientale, vous qui travaillez sur les chrétiens d'Orient, vous savez très bien que la notion de nation, chez nous, en arménien, on dit « ask », est absolument inséparable du principe religieux, du principe de confession religieuse. On appartient à une nation, et cette nation se définit par l'espace, sans doute, qu'elle occupe géographiquement quelque part, en Europe, en Orient, mais surtout par son héritage religieux et culturel. Et cet héritage religieux et culturel était différent, évidemment, du principe de la citoyenneté française qui efface, en principe, qui gomme les différences des peuples arrivés sur le territoire français. Et c'est parce que j'ai été prise entre ces deux principes que moi j'ai voulu comprendre aussi pourquoi, dans l'histoire de France, on vous racontait, je ne sais pas, des héros comme du Guesclin qui s'était battu contre les Anglais, Jeanne d'Arc qui s'était battue contre les Anglais. Jeanne d'Arc était une femme qui avait souffert des choses horribles sur le bûcher, mais qui avait, par son action, permis au roi de France de reconquérir son royaume. Alors, pourquoi est-ce que dans l'histoire de France, ceux qui se battaient gagnaient ? Et pourquoi dans l'histoire de l'Arménie, ceux qui se battaient avaient été non seulement battus, avaient perdu leur territoire et étaient devenus un peuple dispersé.
Est-ce que c'est cet éveil, Anaïs Termination, pardon de vous interrompre, qui a fait de vous, comme vous le dites, le début de votre itinéraire d'historienne et l'itinéraire d'une historienne engagée?
Exactement. Le mot historienne engagée, c'est un mot dont on ne se prévaut pas. Aujourd'hui, les historiens ne veulent pas dire qu'ils sont entrés dans la carrière de Clio avec un objectif et avec aussi un héritage, quelque chose à prouver, quelque chose qui fait que vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin de vous engager dans ce métier-là. On considère, enfin je ne sais pas si on considère vraiment, mais en gros, aujourd'hui, les historiens de l'école des hautes études ou les historiens académiques se prétendent objectifs et scientifiques. Dans la mesure où l'histoire peut être une science, alors que selon moi et selon d'autres, l'histoire est une discipline plutôt littéraire, une discipline fondée sur l'interprétation des faits et sur l'obligation, bien sûr, d'établir avec le plus de justesse possible la réalité de ces faits. Bon. Donc j'avais besoin de comprendre à la fois les origines du génocide des Arméniens, la raison pour laquelle les Arméniens avaient perdu ce pays dans lequel ils vivaient, eux ou leurs ancêtres, depuis environ 3 millénaires, et pourquoi aujourd'hui les Arméniens étaient un peuple dispersé.
Écrivez-vous à la maison, le génocide, on disait alors les massacres, n'était pas un événement tabou que l'on cachait aux enfants. La notion de traumatisme psychologique n'avait pas encore été inventée par les pédopsychiatres ou tout simplement n'avait jamais pénétré chez nous. Bien au contraire, le génocide faisait l'objet d'un récit quasi quotidien, à la fois répétitif et renouvelé. Un récit qui, comme dans les contes, s'enrichissait de nouveaux détails rapportés par les uns ou l'autre de nos visiteurs. On est avec vous, on s'imagine très très bien les amis de vos parents qui passent dans votre appartement et évoquent chacun leur histoire.
Alors, en effet, par parents qui passent à la maison, il y a une certaine diguine, ça veut dire madame, au sens noble, respectueux du terme, madame Marie, qui était une veuve silencieuse, qui avait perdu ses 8 enfants. Je me suis interrogée depuis, je me suis dit, est-ce que c'était vraiment 8 ou 7? Ça ressemblait étrangement à l'histoire du petit Poucet, je le dis, mais ça ne se termine pas du tout de la même façon. Dans le petit Poucet, les enfants sont perdus et retrouvent leurs parents, poussés par la misère à les avoir abandonnés. Tandis que dans l'histoire de Madame Marie, elle traversait, elle perdait évidemment son époux en premier, comme c'est... Ça s'est passé dans le génocide des Arméniens, et elle perdait un par un tous ses enfants en cours de route, de famine, de misère, de maladie. Et quand elle arrive à Alep, hein, je dis bien qu'Alep est restée pour moi une ville où j'ai jamais mis les pieds, mais dont j'ai gardé le souvenir d'un lieu de sécurité, un havre où on pouvait arriver et reprendre vie. Mais quand Madame Marie arrive à Alep, elle perd à Alep son dernier enfant. Et pendant des années, enfin, ça me paraissait très long parce que j'étais petite, quand Madame Marie venait à la maison, elle s'asseyait, elle ne disait rien. Elle ne disait rien, elle ne se plaignait pas. Elle témoignait par sa présence ce drame dont on m'avait raconté l'histoire avant et après, et que là, évidemment, j'ai reçu comme un héritage.
Et votre vocation...
Qu'il fallait creuser, qu'il fallait transmettre à mon tour.
Est-ce le début de votre vocation d'historienne ?
Oui. Donc ça, c'est le début de... Enfin bon, d'une déjà une longue histoire.
Alors revenons sur la thématique de notre émission, voilà, parce que nous sommes tout de même ensemble pour évoquer un point important de l'histoire arménienne. Alors je rappelle que nous sommes en compagnie d'Anaïs Termination sur Chrétien d'Orient avec Sébastien de Courtois, et nous parlons d'un livre. Alors on peut pas évoquer son ensemble, bien entendu, L'échiquier arménien entre guerre et révolution. Ce qui m'intéresse, c'est la question d'Etchmiadzin, dont on entend beaucoup parler, qui est ce centre spirituel et religieux très important en Arménie, mais aussi dans le cœur des Arméniens. Alors quel est le sens de cet endroit, tout simplement ?
Bon, d'abord, Etchmiadzin, c'est un lieu dans la plaine de l'Ararat, au pied du mont Ararat, comme son nom l'indique. C'est le centre spirituel le plus important de l'église apostolique arménienne, comme son nom le dit, apostolique, l'église qui se réclame des apôtres. D'abord, Thaddée et Barthélemy, les compagnons du Christ. Bon, ça, c'est ancien, c'est très ancien. Et qui, surtout, se réclame d'un saint personnage, qui est Saint Grégoire l'Illuminateur, qui a vécu entre la fin du 3e et le début du 4e siècle, et qui est considéré comme véritablement celui qui a joué le rôle de celui qui a réellement christianisé le royaume dit de la Grande Arménie. Bon, il y a donc toute une histoire, j'allais dire romanesque, qui est romanesque par certains aspects, bon, disons un fragment du roman national arménien qui commence avec Etchmiadzin. Etchmiadzin veut dire en arménien krapar, en arménien ancien, là où est descendu le fils unique, c'est-à-dire le monogame, c'est-à-dire là où est descendu le Christ. Ce n'est pas rien d'appeler un lieu d'une opération aussi importante et aussi divine et aussi exceptionnelle dans l'histoire de la chrétienté orientale. Alors, on peut remonter. Cet événement a été raconté par des historiens, mais surtout le premier d'entre eux, qui n'est peut-être pas arménien, mais qui a prétend avoir été un analyste au service du roi Dertat. Donc, nous allons revenir sur ce roi d'Urtat, deux, trois ou quatre, peu importe le numéro, mais enfin du roi d'Urtat, un des grands rois d'Urtat de la Grande Arménie étant plutôt, enfin, autour de, entre ce qu'on appellerait aujourd'hui le Sud-Caucase et l'Anatolie orientale. Et cet historien qui s'appelle Agatange.
Quel nom ?
Bon, Agatange, qui est un nom plutôt grec, qui veut dire, Arkandelos, disent les Arméniens, aurait écrit une Hayots Patmotion, une histoire de l'Arménie, mais dont nous ne possédons pas l'original, mais qui a été recopié, qui a été traduit dans diverses langues, bien sûr en grec, en arabe, en syriaque, bon, pour ne citer que ces trois-là, en latin beaucoup plus tard, et dont nous ne possédons qu'une version datant du XVIIe siècle, mais enfin, peu importe. Cette histoire de Lagrange s'appelle « Histoire du règne de Deltat » et « La prédication de Saint Grégoire l'Illuminateur ». Et cette histoire raconte comment... Alors, il faut quand même rappeler... raconte comment Saint Grégoire a une vision, Saint Grégoire dont on va peut-être, il faudrait quand même rappeler son martyre. Voilà ce que dit « La voûte du firmament céleste s'ouvrit comme un pavillon, et il en descendit un homme éclatant de lumière. Il m'appela par mon nom et me dit « Grégoire !» Et moi, regardant, je vis son visage épouvanté et tremblant, je tombai en terre. Et il me dit « Regarde en haut !» et contemple les merveilles que je te montre. Et moi, regardant, je vis le firmament céleste ouvert, les eaux divisées, et comme des vallées et des cimes de montagnes accumulées, ça et là est tellement élevé que l'œil ne pouvait les atteindre. Et un peu plus tard, je ne vais pas tout vous lire, j'aperçus au milieu de la ville, près du palais du roi, un piédestal rond en or, large comme un grand plateau, duquel s'élevait une immense colonne de feu avec un nuage pour chapiteau surmonté d'une croix flamboyante. Et je regardais, et je vis trois autres piédestaux, un à l'endroit où fut martyrisée Sainte Cayanée avec deux de ses compagnes, l'autre là où Sainte Lepsimée fut martyrisée avec ses 30 compagnes, le troisième sur l'emplacement de la Resserdicue. Et ses piédestaux étaient de couleur rouge sang, et les colonnes étaient des nuages et des chapiteaux de feu, et sur les trois colonnes, des croix lumineuses, semblables à la croix du Seigneur.
Est-ce là le récit de la fondation des Tchmiadzin ?
Alors, c'est le récit du lieu où va avoir lieu la fondation, en pierre cette fois-ci, de la cathédrale des Tchmiadzin, et de tout l'espace sacré qu'il y a autour des Tchmiadzin. Alors, pour comprendre cela, il faut quand même revenir un petit peu en arrière.
Décrivez-moi l'endroit, s'il vous plaît.
Alors, l'endroit est dans une plaine. Tout ce qu'il y a de plus, c'est très plat. C'est extrêmement plat. Ça comprend, d'abord, au centre de cette plaine, entourée de murailles, une cathédrale qui a été fondée, donc... 4e, 5e siècle, mais qui a été reconstruit, restauré jusqu'au 18e siècle, et même aujourd'hui, au 20e siècle, on a encore ajouté des éléments, des Hachkar, etc. Et autour, et dans un espace géométrique qui n'est pas n'importe lequel, il y a trois principales chapelles, trois petites églises qui sont des petites merveilles, qui datent elles aussi en principe du début du 5e siècle, Sainte Gayané, ou plutôt Sainte Lepsimée, Sainte Cayanée, Choragat, qui veut dire flot de lumière, qui constituent un quadrilatère dans l'espace, si on projette cela. Et des chercheurs ont trouvé récemment que cet espace sacré qui a été ainsi constitué dans la plaine de l'Ararat, au pied du mont Ararat, reproduit l'iconographie vivante de la ville de Jérusalem, car la vision de Saint Grégoire, telle que je viens de vous lire le passage écrit par Agathange, reproduit presque, je ne dirais pas terme à terme, mais disons, reproduit un peu la vision de Constantin. Et vous savez que Constantin, qui embrasse le christianisme pour lui-même, qui ne l'impose pas encore à l'Empire byzantin, enfin ce qui va devenir l'Empire romain d'Orient, envoie sa mère Hélène à Jérusalem, au moment où Jérusalem, qui est jusque-là le centre du judaïsme, va devenir une ville chrétienne. On oublie très très souvent que Jérusalem devient un centre religieux pour les chrétiens seulement à partir du 3e, 4e siècle. Et vous savez que Hélène va faire construire, va d'abord faire rechercher des morceaux de la Vercroix, va trouver le Golgotha, et va faire construire tout cet ensemble hiérosimiatien à Jérusalem, comme disent les Arméniens, Jérusalem. Et on a constaté que l'organisation de l'espace religieux dans la plaine de l'Ararat, autour des Tchvazin, correspond à l'organisation de l'espace religieux à Jérusalem au début du IVe siècle.
Alors Anaïd, vous avez dit un mot magique qui est le mot Ararat. Est-ce que lorsqu'on est dans le monastère ou l'ensemble monastique des Tchvazin, est-ce qu'on voit le mont Ararat ?
Alors, on le voit par beau temps. Et on le voyait beaucoup mieux avant que les Soviétiques aient fait quelques constructions en hauteur d'immeubles modernes, un peu évidemment en suivant le lieu où on se trouve à Tchmiazine, on peut voir ou ne pas voir certains jours le mont Ararat. Mais le mont Ararat, c'est très très important, comme vous le savez, puisque c'est sur le mont Ararat que Noé, la nef de Noé, avec sa famille et les animaux vont échouer. Et c'est du mont Ararat que descendent les trois fils de Noé, dans la plaine encore gorgée d'eau, qui est la plaine de l'Ararat. Il y a un célèbre tableau d'Aïwazowski que j'aime beaucoup, qui représente dans une lumière de début du monde, Noé, avec une grande canne, avec une grande barbe, avec sa femme, ses fils derrière, et la suite des animaux qui descendent dans la plaine de l'Ararat, et qui symbolise la renaissance de l'humanité qui avait été condamnée à Dieu par le déluge.
Merci beaucoup Anaïd Termination. Nous allons terminer Merci. Sur cette formidable image. Je rappelle le titre de votre livre, L'échiquier arménien entre guerre et révolution. Je remercie Dany Journeau, Stéphane Touvenin, Claire Poinsignon pour la réalisation et la technique de cette émission. Nous retrouvons sur France Culture le service protestant. Bon dimanche.